Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être déjà nombreux, présents. Je vais vous dire très peu de choses à propos de Maître Michaël Boulet, que plusieurs d'entre vous connaissent à travers les informations qui nous étaient données sur son activité, notamment dans le bulletin de la DMD. Donc, il est avocat à Angers. Il est par ailleurs responsable de la commission juridique de notre association, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et il a été aussi récemment élu au conseil d'administration de cette même association. Mais bien évidemment, ce qui nous a particulièrement intéressé à son sujet, c'est le fait qu'il est à notre connaissance, qu'il soit à notre connaissance le seul avocat ayant pu obtenir un acquittement dans une affaire très, très lourde, très dure, l'affaire dite Morten Jensen à Angers, et que je pense tout le monde connaît à travers l'écho qui en avait été donné dans la presse, notamment, pas seulement dans la presse, sur le plan audiovisuel aussi, à la télévision. Alors, je vais donc tout de suite lui céder la parole, parce que c'est lui que vous êtes venu entendre, fort heureusement pour vous. Et je vais simplement vous rapporter ici, de leur part, les excuses que vous présentent pour leur absence, parce qu'ils étaient pris par de nombreuses autres obligations. Le sénateur Alain Fouché, qui, après le conseil d'administration auquel participait Michaël Boulet, devait se rendre au Sénat ce soir, donc il ne pouvait pas être parmi nous ce soir. Et de même, nous avons reçu des mots de vous priant d'excuser l'absence de nos députés Catherine Coutel et également Jean-Michel Clément. Voilà. Eh bien, encore merci d'être venu. Je sais que vous avez une très longue journée entre le départ d'Angers, le conseil d'administration à Paris, le train, la conférence ce soir et demain matin aux Aurores. Départ à nouveau pour Angers. C'est particulièrement sympathique d'avoir accepté, avec toutes ces contraintes, d'être là. Merci encore d'être parmi nous.
Est-ce que tout le monde m'entend ? Oui, c'est parfait, c'est bon. Comme ça, c'est mieux. Bon, on va le mettre comme ça. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir dans cette ville de Poitiers, que je connais un petit peu parce que la formation d'avocat, lorsqu'on habite Angers, nous oblige à passer un an ici, à Poitiers. Et ce n'est pas du tout une obligation, parce qu'au contraire, avec le cadre de vie qu'on a dans cette ville de Poitiers, c'était très agréable. Je suis très content de revenir ici ce soir, ça me rappelle les souvenirs, d'autant que j'étais logé pas très loin d'ici. Le thème de ce soir est un thème, je crois, qui est imposé, hein, comme en matière de certains sports. C'est aussi une réflexion sur l'euthanasie par rapport aux droits que peuvent avoir d'autres citoyens, donc, soit dans le cadre de l'Union européenne, soit dans le cadre d'autres pays. Pour ma part, je vais essentiellement faire une comparaison avec les droits des citoyens de l'Union européenne et peut-être un petit peu élargir à la Suisse. Donc voilà. Alors, j'imagine que tout le monde connaît ici la loi Leonetti. Je reviendrai tout à l'heure sur cette loi, donc, qui est une loi d'avril 2005. Pour ma part, je vais commencer à positionner le débat de manière chronologique. Je dirais que l'année 2003 a été une année très importante. Importante pourquoi ? Parce que tout simplement, on avait plusieurs affaires qui sont arrivées en même temps. Une affaire que vous connaissez tous, j'imagine, c'est l'affaire de Vincent Humbert. L'affaire de Vincent Humbert, elle a défrayé la chronique. Cette mère qui était déchirée par la situation de son fils, la situation du docteur Chaussois qui a pris part à cette aventure, si je puis dire, et puis d'autres affaires qui se sont déroulées sur le plan national en même temps, dont la mienne. Pour ma part, mon affaire n'était pas médiatisée du tout, puisque en fait, mon client, Morten Jensen, ne souhaitait pas que l'affaire soit médiatique. Et j'ai respecté son choix. Et donc, durant tout le long de l'instruction, c'est-à-dire les trois années de 2003 à 2006, on a attendu uniquement la date du procès pour parler de cette affaire. Alors, l'affaire Humbert, c'est l'affaire qui a entraîné la modification de la loi, c'est-à-dire l'apparition de la loi Leonetti. C'est une affaire qui a entraîné une ordonnance de non-lieu rendue par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. C'est-à-dire qu'on poursuivait à l'époque le docteur Chaussois et Marie Humbert. Alors l'un, c'était du chef d'empoisonnement donc sur Vincent Humbert, et l'autre, Marie Humbert, c'était du chef d'administration de substances nocives pour son fils, sur son fils. Il y a eu une ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire que cette affaire n'est pas venue devant les tribunaux. Et là, pourtant, Marie Imbert aurait bien aimé que cette affaire vienne devant les tribunaux, justement pour faire évoluer le débat sur l'euthanasie. Quoi qu'il en soit, on a eu la loi donc, de M. Leonetti. Cette loi, je ne sais pas si la plupart d'entre vous cernent un petit peu la position de cette loi ou ont bien en mémoire l'idée de la loi. Apparemment, non. Est-ce que certains veulent qu'on répète l'article de loi le plus important, peut-être ? Oui, j'en vois au moins un, donc on va retenir. Donc, lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale, sans que la personne de confiance... Donc ça, c'est donc la possibilité donc, d'avoir anticipé, je veux dire, ses dernières volontés. Il y a aussi le droit à l'information du malade, qui est un droit essentiel, qui n'était pas reconnu jusque-là concrètement. Et puis, il y a tout simplement la possibilité d'arrêt du traitement. Alors, c'est là où la polémique est importante, puisqu'il est reconnu en France, si je résume la loi, la possibilité d'arrêter tout traitement d'une personne malade qui la réclame et qui était en fin de vie, qui est dans les conditions prévues par la loi. Or, les affaires qui vont se succéder ensuite vont démontrer que la loi n'est pas suffisante, en France tout au moins. Vous allez avoir plusieurs affaires qui vont succéder ensuite. Il y a la mienne, il y a notamment celle de Chantal Tramois et de Madame Chanel, donc près de Bordeaux, à Saint-Astier. Et puis, il y a d'autres affaires qui vont se dérouler. On va avoir les mêmes difficultés. Pour ma part, donc, il s'agissait d'un jeune Danois, donc âgé de 29 ans, dont l'épouse, qui était dans les mêmes âges, était atteinte d'un cancer qui était au départ un cancer du sein. Cancer du sein qui s'est généralisé. Elle était française, il était Danois. Ils avaient eu un coup de foudre. Ils avaient déménagé donc, au Danemark pour pouvoir vivre leur idylle où ils avaient eu un enfant. Elle a été frappée donc, par le cancer du sein, ablation d'un sein, puis du deuxième, puisque là-bas, c'est ce qui est préconisé. Transport ensuite vers la France, plus précisément Angers, parce qu'elle a de la famille sur place. Et puis, le cancer n'a cessé d'évoluer tous les ans, toujours à la même date, à peu près vers Noël chaque année. Le cancer évoluait ou mutait d'une autre manière, jusqu'à devenir un cancer généralisé. Il va rester pendant 3 mois à son chevet, à l'aider, à la supporter, vraiment en mettant des choses très, très, très émouvantes, c'est-à-dire qu'il accrochait des posters de l'enfant au plafond de la chambre. Il était tout le temps en train de s'occuper d'elle. Il avait installé un lit de camp à l'hôpital d'Angers, le centre Paul Papin, qui s'occupe des cancéreux. Et on a vraiment une personne qui était totalement amoureuse de sa femme et puis qui a tout fait jusqu'au dernier moment pour elle. Et puis, alors qu'elle était dans un coma, donc elle se réveillait uniquement pour hurler et pousser des hurlements, et bien un jour, en début d'année 2003, début janvier, il va décider tout simplement de presser les seringues de morphine et de tranxène et puis de mettre fin au jour de son épouse. Il va répandre des pétales de rose sur le lit pour qu'elle soit accompagnée. Il va lui donner d'entre ses bras une peluche qui lui a été offerte par une jeune femme qui va mourir aussi d'un cancer plus tard, mais d'une amie en qui elle avait confiance. Et donc, il va mettre fin au jour de son épouse. Et ensuite, suite à ces faits, l'infirmière qui est présente va prévenir le médecin de service, qui va lui-même prévenir les services de police. Il va être placé en garde à vue, puis de la garde à vue à l'instruction. Et l'instruction durera 3 ans, 3 ans pendant lesquels on n'aura presque aucun acte, puisque les médecins experts qui viendront voir cette personne diront que c'est quelqu'un de généreux. C'est vraiment le profil même de la personne honnête qui n'imaginait pas qu'un jour il soit obligé de faire ça. Et donc, aboutira donc à un renvoi devant la cour d'assises malgré tout. Il sera jugé au même titre qu'un criminel endurci. Et il sera acquitté au bout d'une demi-heure de délibéré, puisque les jurés sont pas rentrés dans le jeu de l'avocat général qui estimait que les jurés, au contraire, devaient être le dernier rempart, l'ultime rempart à cette dérive de la société. Quoi qu'il en soit, ça démontre bien que, comme le démontrent aussi les sondages qui sont faits en la matière, que la population, eh bien, elle a une vision totalement différente du législateur sur ce point. Alors, plus précisément, donc, sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai recadré un petit peu le débat sur la loi Leonetti et la jurisprudence qui l'entoure. Que se passe-t-il ailleurs ? On a eu aussi quand même deux mots sur l'affaire de Chantal Sébir. Chantal Sébir, parce que cette affaire a obligé le législateur à réagir l'année dernière. Dans cette affaire, Chantal Sébir, vous l'avez vu, elle réclamait le droit de mourir aussi. Elle a saisi une juridiction qui n'est pas celle qu'on saisissait jusqu'à maintenant, puisqu'on était sur le terrain pénal. Elle a saisi une juridiction civile, le tribunal de grande instance, en statuant à la matière des référés, pour avoir justement l'autorisation, voir son médecin, avoir l'autorisation de mettre fin à ses jours. Il y a eu bien sûr une décision de rejet de cette proposition. Elle a été déboutée de sa demande, mais suite à cette demande, parce qu'à nouveau on a eu un aspect médiatique très important, le législateur a demandé à Jean Leonetti de faire une analyse de sa loi. C'est un petit peu original, puisque c'est celui qui a lui-même fait sa copie de l'analyser, donc vous imaginez bien qu'on ne s'attendait pas à des merveilles. Quoi qu'il en soit, on lui a demandé de vérifier un petit peu sa loi, de faire un bilan de celle-ci, que je vais aborder un petit peu justement par rapport aux autres pays. Alors, on va commencer. Pour ma part, je vais traiter donc les trois pays de l'Union européenne qui ont aujourd'hui donc adopté des lois concernant l'euthanasie. Donc, vous avez les Pays-Bas, vous avez la Belgique, le Luxembourg, et puis en dernier, je ferai un clin d'œil tout de même à la Suisse, puisque même si elle ne fait pas partie de l'Union européenne, elle nous est proche, et donc on a aussi des dispositions là-bas qui nous intéressent. Alors, pour les Pays-Bas, je crois qu'il faut d'abord rappeler que c'est le premier pays à avoir légalisé donc, dans l'Union européenne l'euthanasie. La loi date de 2001, d'avril 2001, et elle est fondée en fait sur un débat qui a eu lieu donc, au sein des deux assemblées sur place, et ça je crois que c'est important de le rappeler. Dans chaque pays européen qui a eu à traiter de l'euthanasie, à la différence de la France, on a un débat qui a eu lieu au sein de chaque parlement, c'est-à-dire que les pays n'ont pas du jour au lendemain fait face à des affaires médiatiques et immédiatement réagi au cas par cas comme on a pu avoir en France. C'est les pays qui ont au contraire décidé d'ouvrir un débat dans leur assemblée, dans leur parlement, débat qui a duré des fois plusieurs jours, où se sont échangés donc des conseils entre des juridiques, du corps médical, et on a eu un vrai débat, comme on réclame depuis longtemps. De ce débat, on avait déjà aux Pays-Bas des critères qui étaient sortis, qui avaient été trouvés par la jurisprudence, qui étaient déterminés depuis une dizaine d'années. En fait, il s'agit des critères de minutie, c'est-à-dire qu'on peut pratiquer une euthanasie aux Pays-Bas à la condition de respecter donc plusieurs critères qu'on appelle les critères de minutie. Ces critères de minutie, je vais vous les lire. Il faut être convaincu que la demande du patient est volontaire, réfléchir et itérer. Le côté volontaire, vous allez le retrouver dans chaque disposition législative dont je vais vous parler. C'est-à-dire que tant les Pays-Bas que la Belgique et le Luxembourg sont des pays où le côté volontaire réfléchi du patient et réitéré est important. Ce sont vraiment le fondamental. Il faut être convaincu que la souffrance du patient est insupportable sans issue, avoir informé le patient de son état actuel sur le pronostic, bon, information. Dans la loi Leonetti, vous avez aussi donc, cette idée d'informer le patient qui est quelque chose d'important dans notre siècle. Être arrivé avec le patient à la conclusion qu'il n'y a pas d'autre solution acceptable et avoir consulté au moins un autre médecin indépendant qui, après avoir examiné le patient, a émis un avis concernant le respect des critères de minutie. Il faut avoir procédé à la fin de vie selon les critères médicaux. Alors, on aurait tendance, en droit français, je dirais, à regarder ces critères de minutie d'un petit peu loin, puisque c'est absolument pas notre culture, hein, de cette manière de voir les choses. On a tendance, peut-être un petit peu, quand on lit le rapport de Jean Leonetti, puisqu'il fait une analyse des Pays-Bas, il a tendance à critiquer nettement donc, les Pays-Bas, estimant que ce système n'est pas assez objectif. Quoi qu'il en soit, vous avez un réel contrôle qui est mis en place, puisque vous avez donc un médecin donc, qui va pratiquer l'euthanasie donc, auprès d'un citoyen des Pays-Bas. Ensuite, le dossier ne va pas s'arrêter là. Le dossier va ensuite partir chez un médecin légiste communal donc, qui va avoir pour mission, à son tour, de vérifier la manière dont se sont déroulés les actes avant lui-même de transmettre le dossier, cette fois, au procureur de la Reine. Alors, ce sont des mots un petit peu imagés pour nous, mais c'est, on pourrait dire, l'équivalent de procureur de la République chez nous. Donc au procureur, qui lui à son tour va éventuellement ou non, au regard du dossier, délivrer un permis d'inhumer. S'il estime qu'il y a une difficulté, il va saisir au contraire un conseil de plusieurs procureurs pour voir si oui ou non on peut avoir un acte qui est dissimulé, un acte malveillant qui serait dissimulé derrière l'acte d'euthanasie. Et ensuite, il y a une commission régionale de contrôle qui est mise en place, qui elle, à son tour, vérifie que le procureur, le médecin légiste communal et le premier médecin ne se sont pas trompés. Si on a une difficulté, aux Pays-Bas, on a un contrôle qui est fait a posteriori. C'est-à-dire que pour le cas où on aurait une personne malveillante qui aurait commis un acte criminel, eh bien, elle risque 12 ans de réclusion criminelle. Dans le rapport de Jean Leonetti, je n'ai pas vu de cas où il citait des erreurs sur ce point-là. Sur les chiffres qu'ils ont donnés, on n'a pas eu de cas d'affaires criminelles. Ça, c'est le premier point concernant les Pays-Bas. Sur la Belgique, c'est un petit peu différent. La Belgique, donc, on a à nouveau donc une loi qui est assez récente, elle est de 2002. C'est le deuxième, j'allais dire le second, mais comme on a Luxembourg, c'est le deuxième pays donc à autoriser l'euthanasie donc sous certaines conditions. Il y a des conditions particulières à respecter qui sont dans l'esprit toujours les mêmes que celles des Pays-Bas, et on a aussi une procédure bien particulière à respecter. Le patient doit être majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de sa demande. La demande est formulée de manière volontaire, j'insiste encore une fois sur le caractère volontaire. Réfléchi et répété, c'est l'équivalent du réitéré aux Pays-Bas. Elle ne doit pas résulter d'une pression extérieure. La maladie doit être sans issue, le patient doit faire état d'une souffrance physique ou psychique constante, insupportable, ne pouvant être apaisée, résultant d'une affection grave et incurable. Voilà donc les critères, les conditions pour pouvoir bénéficier d'une euthanasie en Belgique. Le médecin, pour la procédure, doit informer le patient de son état et de l'espérance de vie, évoquer les traitements envisageables, les possibilités de soins, leurs conséquences. Il doit arriver avec le patient à la conviction qu'il n'y a pas d'autre solution. Il y a plusieurs entretiens qui auront lieu. Un autre médecin doit être consulté. Ça, c'est une obligation en Belgique. Il y a l'obligation de prendre un autre consultant médecin qui viendra lui aussi donner son avis sur la procédure d'euthanasie. Et enfin, s'il existe une équipe soignante, cette dernière doit être consultée aussi. Alors, vous avez sur place, au niveau du cadre juridique en Belgique, une commission, la commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, qui, elle, va être chargée donc de vérifier l'ensemble des dossiers, vérifier la manière dont la demande d'euthanasie s'est déroulée, vérifier dont l'acte d'euthanasie s'est déroulé pour voir s'il est conforme à la législation. Donc vous avez à nouveau ici un contrôle a posteriori, c'est-à-dire que c'est une fois que l'acte d'euthanasie a été fait qu'on va vérifier si oui ou non il a été fait dans les règles, et apparemment on n'a pas non plus de cas de dérive au grand dam de Jean Leonetti. Alors justement, Jean Leonetti, sur le cas de la Belgique, avait été particulièrement dur dans ses propos qu'il avait tenus au sein de l'évaluation de sa propre loi. Il avait expliqué que la rapidité avec laquelle en Belgique on pouvait obtenir une aide d'euthanasie était assez inquiétante. Il avait peur qu'il y ait des dérives à cause de cette rapidité. Il mettait en relief plusieurs points qui, selon lui, montraient que la Belgique, la loi là-bas n'était pas mal appliquée, ou tout au moins elle risquait des dérives. Pour ma part, quand j'ai lu le rapport donc, de Jean Leonetti, je pensais, je dirais naïvement, qu'il avait fait ce rapport objectivement, même si bon, les conclusions, je pensais qu'elles étaient plutôt dictées par le gouvernement actuel que par le fond de sa pensée. Mais pour ma part, je pensais qu'au moins les réflexions qu'il avait pu avoir, au moins les informations, il avait eu l'objectivité et l'honnêteté de les rendre fidèlement dans son rapport, ce qui n'est pas le cas, puisque lors d'une récente conférence, donc, en Charente-Maritime, pas très loin d'ici, en fait, j'ai appris tout simplement que la Belgique avait répondu aux propos qui ont été tenus par Jean Leonetti dans le cadre du rapport qu'il a fait récemment, et notamment donc une lettre ouverte lui a été écrite, c'est-à-dire que le docteur professeur donc Marc Engler, donc ce professeur belge qui a été entendu par Jean Leonetti, qui lui a fourni les informations, a écrit une lettre au député Jean Leonetti pour lui dire que la manière dont il avait rédigé son rapport était erronée, était déformée, et que les propos qu'il avait tenus dans son rapport n'étaient absolument pas ceux qui avaient été tenus dans le cadre de leurs entretiens. Je vais vous lire juste pour vous donner une idée de la pensée donc, du professeur, du docteur belge donc, de l'entretien avec Jean Leonetti. Il indique « Je regrette de constater que le rapport que vous avez déposé à l'Assemblée nationale ignore ou déforme, ne fait que ressasser des arguments dont 6 années de pratique de l'euthanasie ont démontré l'inanité et vise à donner l'impression que la législation belge rend trop facile le recours à l'euthanasie, improprement qualifié de droit à la mort. La partie de votre rapport qui a trait à la Belgique mérite d'être sérieusement rectifiée. » Je prends l'avant-dernier paragraphe. Les deux seuls brefs témoignages, très peu convaincants, que vous incluez dans votre rapport démontrent, pour autant qu'une telle démonstration soit nécessaire, que vous n'avez pas cherché à établir un bilan impartial, mais simplement à étayer un plaidoyer décidé par avance. Des centaines d'autres sont disponibles qui affirment vos positions. Et à la fin, il lui fait un cours sur la démocratie, tout simplement, en lui expliquant que pour une bonne démocratie, il faut écouter les opinions de chacun et ne pas les déformer. Donc, c'est un petit peu triste de voir que pourtant, c'est une personne qui est importante. Hein, Marc Engler, c'est une personne qui dirige, en fait, qui fait partie de ces grandes commissions qui ont pour mission de vérifier si les actes d'euthanasie en Belgique sont ou non conformes à la loi. On se rend compte que l'entretien que Jean Leonetti a pu avoir avec lui, en fait, a été déformé. Les propos rapportés dans le rapport ne sont pas les bons. C'est dommage parce que ça ne fait pas avancer le débat. Et en plus, le public est trompé, les citoyens aussi. Donc là aussi, on a l'exemple de la Belgique donc, qui nous démontre que, après concertation, puisque en Belgique aussi, on a eu une concertation assez longue avec un débat, on peut arriver à une modification législative et puis à un texte qui soit adapté, qui soit fourni, recherché, enfin, qui soit construit. Apparemment, ça gêne certaines personnes. Le dernier pays dont je voulais vous parler aujourd'hui, donc qui fait partie de l'Union européenne, c'est le Luxembourg. Petit pays, hein, 448 000 habitants. On a eu un petit souci là-bas pour développer le thème de l'euthanasie, non pas sur les débats, puisqu'il y a eu là aussi un débat assez long donc, entre les chambres qui sont chargées d'élaborer les lois. Débat assez long, mais il y avait un système constitutionnel qui faisait que le grand-duc, qui était sur place, devait donner son aval auparavant à tout texte de loi. Il était opposé fermement au droit à l'euthanasie. Par conséquent, avant de voter la loi, il a fallu modifier la loi pour faire en sorte que ce régime soit modifié et qu'il n'ait plus à donner simplement qu'un avis, je dirais, sur les lois qui sont faites et non plus à bloquer les textes de loi qui pouvaient faire évoluer la société. Par conséquent, donc, on a eu une loi qui est récente, hein, qui est de mars de cette année, donc, qui ressemble à celle des Pays-Bas, avec un peu les mêmes principes qu'aux Pays-Bas sur l'idée du volontariat, de la minutie. Donc on a aujourd'hui 3 pays au sein de l'Union européenne qui ont permis à leurs citoyens donc, d'avoir un droit à l'euthanasie dans des critères bien particuliers, avec des procédures bien particulières de vérification. Et j'insiste sur le fait que le contrôle qui est opéré donc, de ces actes est un contrôle a posteriori. Alors qu'en France, on a tendance à vouloir toujours installer des éléments au préalable, je dirais préalablement. Vous prenez l'exemple de l'instruction en France, avant de déterminer la culpabilité, on va faire toute notre instruction. Enfin, on est basé sur un système de fonctionnement inverse du nôtre. Si je puis m'exprimer bien, je ne sais pas si vous me comprenez, mais ils sont dans un système opposé. Nous avons un système un petit peu à l'envers par rapport à eux. Le dernier pays dont je veux parler, c'est la Suisse. La Suisse, on en a pas mal parlé dans les médias. En Suisse, il n'y a pas de texte législatif qui permet l'euthanasie, à la différence des autres pays dont j'ai pu parler. En Suisse, vous avez un texte du code pénal, l'article 115 du code pénal, qui nous dit « Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus d'une peine pécuniaire. » Donc ça veut dire qu'à contrario, celui qui aide quelqu'un à se suicider, mais qui n'est absolument pas en plein d'un mobile égoïste, peut tout à fait aider quelqu'un à se suicider. Donc c'est ce qui se passe là-bas, puisque vous avez des associations qui se sont mises en place, une qui accepte les étrangers à la Suisse et l'autre qui accepte uniquement les citoyens suisses, hein, les Suisses. Et donc, vous avez 2 associations qui aident en fait au suicide. Alors là, c'est pareil, vous avez un système de dossiers avec un dossier qui est présenté. Sur le nombre de dossiers présentés, seulement certains seront retenus s'ils répondent aux critères définis par les associations qui reprennent en fait dans leur charte les mêmes critères qu'on a pu trouver, qu'on peut trouver dans les Pays-Bas, c'est-à-dire il faut rencontrer des personnes qui sont atteintes d'une maladie incurable. Le côté est réitéré, on retrouve les mêmes critères, mais cette fois, ce n'est plus une base légale, c'est une base, je dirais, différente, puisque cet article permet aux associations d'aider au suicide, mais il n'y a pas une reconnaissance explicite dans un texte de loi d'un droit d'euthanasie. Donc voilà, je dirais, les trois éléments qu'on a aujourd'hui dans le débat. On a donc la France qui reste campée sur ses positions, qui a tendance, pour ce que j'ai vu dans les débats à ce jour, c'est qu'on a tendance à un petit peu critiquer la manière de faire des autres pays, alors que les autres pays ont à ce jour posé au moins clairement des débats, et ils ont essayé de faire avancer des débats, parce qu'il y a des pays où ça n'a pas avancé, mais au moins il y a un débat. En France, on ne met pas le débat en place, il n'est pas encore posé. On a des pays comme la Suisse où on contourne par le biais d'une disposition textuelle la possibilité d'aider au suicide. La seule chose que je peux vous dire pour conclure un petit peu, c'est que vraisemblablement le 19 novembre prochain, on va avoir enfin un pseudo-débat, puisque les socialistes vont bénéficier de ce qu'on appelle dans le jargon constitutionnel d'une niche parlementaire, ce qui leur permet de faire une proposition donc, dans le cadre du passage devant l'Assemblée nationale, de faire une proposition de loi, et que cette proposition de loi soit débattue. Donc elle sera débattue vraisemblablement pendant un temps limité, c'est-à-dire qu'on va avoir un débat qui va peut-être durer de 14h à 18h, avec l'obligation pour les députés qui seront présents, et même les autres députés, de voter cette loi. Donc soit on aura une abstention, soit on aura un rejet, soit on aura une acceptation. Et donc cette proposition va être déposée donc, par les socialistes le 19 novembre prochain sur un texte qui recueille l'assentiment de la DMD, puisque tout simplement ce texte reprend, je dirais, dans l'inspiration notre texte qu'on a nous-mêmes à la DMD, sauf sur certains points, notamment puisque c'est un texte qui est né de plusieurs courants socialistes, il reprend un thème qui était défendu par Laurent Fabius concernant l'obligation d'avoir au départ l'avis de plusieurs médecins. Vous avez vu que dans les autres pays européens, on a éventuellement un médecin, deux médecins qui participent initialement donc au démarrage du dossier. Or, dans le texte qui va être proposé vraisemblablement le 19 novembre, il y aura une proposition de trois médecins, voire un quatrième qui devra donner son assentiment au départ du dossier, c'est-à-dire au moment où on analyse si la personne peut bénéficier ou non d'une euthanasie. C'est la première fois qu'en France devrait avoir lieu ce débat, puisqu'on ne l'a encore jamais eu donc, au sein de l'Assemblée nationale. On verra ce que ça donnera. Je crois que Jean-Luc Romero en a parlé tout à l'heure sur France 5. Donc je vous confirme que ce débat devrait avoir lieu. Nous verrons. Va-t-on donc s'aligner sur les autres pays de l'Union européenne? Je ne peux pas vous dire actuellement. Quoi qu'il en soit, on note simplement une chose, c'est qu'à chaque fois que le texte sur l'euthanasie a pu être développé et a pu passer dans d'autres pays, c'est à chaque fois après des grands débats qui ont eu lieu pendant deux ou trois jours au sein des institutions parlementaires. Et c'est seulement après ces débats qu'on a pu installer ces textes. Ce qui démontre bien qu'il faut, un échange, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, peu importe, ça permet de faire évoluer les choses, mais il faut cet échange. Alors, je crois que c'est récemment un député de Charente-Maritime qui était... pas de Charente-Maritime, d'un autre secteur du coin, disait que pour sa part, il avait dit en audience publique, avec Jean Leonetti, ils avaient eu des discussions au sein de l'Assemblée nationale, et ils estimaient que la population n'était pas prête aujourd'hui en France à avoir une modification législative de la sorte. On verra. On verra aussi, donc, à partir du 19 novembre, quels sont les députés qui nous ont promis leur soutien et qui le tiendront, et puis quels sont ceux qui ne le tiennent pas. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais vous dire sur... ce droit comparé entre les différents pays de l'Union européenne. Je me tiens maintenant à votre disposition si vous avez des questions. J'espère que j'ai dû être un petit peu trop pas assez précis par moment, donc je me tiens à votre disposition.
Votre micro est à votre disposition si bien ouvrir le champ des questions. On peut ajouter. Oui.
Monsieur.
Pardon.
Oui, je voudrais savoir quelle est la situation en Allemagne pour l'euthanasie. Quelle est la position ?
En Allemagne, on a une position totalement opposée. Je ne peux pas rentrer dans le détail des textes. L'Allemagne, vous allez la comparer avec, sur le thème de l'euthanasie au droit anglais. D'accord ? Donc vous avez l'Allemagne et la Grande-Bretagne ne sont absolument pas au même stade que l'Union, que les Pays-Bas, le Luxembourg ou la Belgique. Ou la Suisse, non, c'est un vide juridique, mais on a des positions totalement opposées. Je ne connais pas exactement les dispositions législatives en Allemagne, par contre, je ne vais pas mentir.
Mais en Angleterre, en Grande-Bretagne, est-ce qu'une brèche ne vient pas d'être ouverte sous forme de jurisprudence dans une affaire d'euthanasie où il y a eu, je crois, un jugement qui, pour la première fois, s'éloigne de la tradition britannique qui était hostile. Et comme ils ont un système basé sur la jurisprudence, ça peut laisser des espoirs, en deux mots, aux Britanniques là-dessus, non ?
Alors je suis sceptique parce que bon, c'est pas que les Britanniques m'importent peu, mais bon, pour ma part, c'est vrai que je pense plutôt au cas français et bon, en Grande-Bretagne, même si les idées évoluent, parce que je pense que c'est une question d'évolution, hein, Gaëtan Gors, dans le cadre de la commission d'évaluation de la loi Leonetti, disait que c'est tout simplement une question d'évolution, de maturité des sociétés. Je pense qu'on va évoluer vers la question de l'euthanasie au fur et à mesure des années. Chaque pays a un moment différent. Si la jurisprudence peut faire évoluer le droit avant la loi, ce sera parfait. En Grande-Bretagne, ils ont cette chance. En France, on aurait très bien pu l'avoir, ne serait-ce que sur l'affaire de Chantal Sébir. On ne l'a pas eu. Peut-être que dans une autre affaire, on aura cette chance-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense que le débat va naître dans d'autres pays, à chaque fois à des stades différents, avec soit des affaires de jurisprudence qui vont créer une brèche, comme l'affaire Morten Jensen, comme l'affaire Marie Imbert, comme l'affaire de Chantal Tramoy et de Mme Chanel, puisque dans ce dossier-là, l'infirmière, elle aussi, elle avait été acquittée. Donc à chaque fois, on a des brèches. Maintenant, c'est au législateur ou non de les voir. S'il ne veut pas les voir, on n'aura pas d'évolution.
Est-ce que vous en savez un peu plus sur les pays du nord de l'Europe, je pense aux pays scandinaves ?
Alors, un petit peu. Mon dossier donc, sur le Morten Jensen était danois. Et au Danemark, ils avaient une vision totalement différente, puisque pour eux, là-bas, déjà dans sa famille, certaines personnes étaient mortes d'actes d'euthanasie. Et c'était quelque chose de tout à fait normal. C'est-à-dire que lorsqu'une personne était en phase terminale d'une maladie ou d'une maladie incurable, qu'il était à la fin de ses jours, eh bien il est courant, là-bas, pareil, de manière non officielle, que le médecin vienne et mette fin au jour de la personne avec l'avis de la famille, l'accord de la famille. Il y avait une mentalité complètement différente et il ne comprenait pas du tout le système juridique français. Et au même moment où notre dossier avait lieu, ça a été assez problématique puisque au Danemark, deux ou trois personnalités célèbres ont fait état dans la presse. Donc, il y avait un présentateur de télé, il y avait un grand journaliste, bon, on va dire l'équivalent de notre Patrick Poivre-d'Arvor, même s'il n'est plus au TF1. On a plusieurs personnes qui ont indiqué que pour leurs proches, ils avaient eux-mêmes réalisé un acte d'euthanasie avec l'aide d'un médecin. Mais ils étaient présents pour faire évoluer la loi au Danemark. C'est toléré. Là-bas, c'est toléré. On n'a pas de texte de loi, enfin, je n'ai pas vu de texte de loi spécifique en la matière, hormis ce qu'on connaît, mais c'est toléré, on a une tolérance qui existe, avec une vision complètement différente de la vie et de la mort. C'est vraiment un ensemble, il faut être présent. Si l'aspect volonté du patient, le côté incurable, est présent, et on doit aider, on doit être là, il y a un aspect familial très important, c'est complètement différent. Donc là, il y a d'autres pays, nordiques aussi, où on a une vision de la mort différente. Voilà ce que je peux vous répondre.
Que se passerait-il, à votre avis, en France, si des personnes créaient une association du type d'Exit ou de Dignitas, puisqu'il me semble qu'en France, aucun texte ne réprime l'assistance au suicide?
Alors ça, c'est un sacré problème, hein, que vous soulevez là. Parce qu'en fait, on a, et ça, Robert Badinter, donc l'ancien garde des Sceaux, donc, l'a soulevé lors des travaux de la commission, l'évaluation récemment. Il a dit que c'était un faux problème, que notre association ADMD, même s'il y en avait d'autres, bon, peu importe, on pourrait tout à fait faire la même chose qu'en Suisse. Puisqu'en France, on a tout à fait la possibilité de se suicider, bon, ce n'est pas répréhensible, et il n'y a aucun texte qui interdit l'aide au suicide. Seulement un texte qui interdit la provocation au suicide. Et la provocation au suicide, c'est une notion dans le code pénal qui n'est pas définie précisément par le législateur, donc on ne sait pas ce qu'elle englobe, et par conséquent, on a une brèche à cet endroit-là, une brèche ou une porte, ça dépend comment on l'enfonce. Donc, immédiatement, je dirais, le procureur, et dans certains dossiers, on a vu qu'ils avaient bloqué la voie le plus fermé possible, c'est-à-dire qu'on a eu le cas, je crois, d'un internaute qui, ça doit être du côté de Guingamp, sur Internet, il échangeait avec une jeune fille qui lui a dit qu'elle allait se suicider, et puis lui a dit « vas-y » ou je ne sais plus, il l'a limite incité, on va dire, « je ne te retiens pas », quelque chose comme ça. Et donc il a été poursuivi au tribunal correctionnel pour provocation au suicide, alors que si on regarde les propos de Robert Badinter, l'infraction n'était pas caractérisée. Donc en fait, le procureur et aujourd'hui donc le ministère public veut fermer cette brèche, sachant que pourtant en 92... Et puis un petit peu après, bon, Jacques Toubon, qui a dû être ministre de la Justice, je crois, à un moment donné, il avait bien précisé qu'on retomberait en fait sur la Suisse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aidez quelqu'un au suicide, vous aidez quelqu'un à se suicider, ça dépend du mobile que vous avez. Soit c'est un mobile qui est... soit il y a l'élément intentionnel, soit vous le faites parce que c'est un but égoïste, vous avez une assurance vie... Vous savez, elle est à votre nom, donc vous n'avez qu'une hâte, c'est qu'ils partent. Soit vous le faites de manière totalement désintéressée. Donc la question avait déjà été tranchée dans le cadre de travaux de parlementaires et d'une question posée au ministre de l'époque. Donc je pense que bon, bah, aujourd'hui, bah, 10 ans après, on revoit la question surgir et pourtant on donne une réponse complètement différente. Tant qu'on n'a pas de loi, ils vont poursuivre pour provocation au suicide dès qu'ils le pourront, surtout en matière d'euthanasie. Comment elle s'appelle, madame, le jeune homme qui est décédé très récemment, une affaire d'euthanasie aussi, enfin, je ne sais plus. Dans 2 affaires d'euthanasie récentes, on a eu des poursuites pour provocation au suicide sur la famille proche. Ça permet immédiatement de bloquer cette voie. Donc ça montre vraiment que le législateur, enfin le gouvernement, veut pas d'évolution sur la provocation au suicide et sur l'aide au suicide.
Et de plus, pour la question qui vient d'être posée, est-ce qu'il n'y aurait pas le risque pour un médecin qui apporterait son assistance technique au suicide, n'est-ce pas, d'être lui poursuivi pour non-assistance à personne en danger, dans tous les cas?
Petit bonheur à la chance, en fait, parce que Robert Badinter disait que non, dans le cadre de, pour lui, qu'il n'y avait pas non plus le terrain à poursuivre sur non-assistance à personne en danger. Pourtant, il est tout à fait possible, à mon avis, aujourd'hui, que le parquet, dans ce cas-là, poursuive un médecin pour non-assistance à personne en danger. Sauf que, en matière pénale, puisque là, on est en matière pénale, la question de l'opportunité des poursuites, elle appartient à chaque parquetier. Et Rachida Dati avait indiqué, lors de son passage donc, devant la commission d'évaluation, qu'elle allait faire une lettre d'information au parquet pour qu'il soit relativement souple sur toutes ces questions-là, pour qu'il n'y ait pas de difficultés. Donc, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on aurait des poursuites.
Merci.
On dit souvent que... la France est la fille de l'Église. Est-ce que le pouvoir religieux n'a pas une capacité à pouvoir peser à tel point que ça pèse à la fois sur le pouvoir politique et le pouvoir législatif, et qu'à un moment, justement, le législatif en subit les conséquences, parce qu'il y a ce qui est dit il y a aussi ce qui n'est pas dit. Et tout, on va dire, le rapport qu'il peut y avoir en sous-main, justement, de la religion dans ce débat-là. Et ça, c'est mon premier point. Et le deuxième point, c'est tout simplement, lorsque l'on parle suicide ou euthanasie, est-ce qu'il n'y a pas une autre porte d'entrée par l'intermédiaire des soins palliatifs qui existent aujourd'hui et qui nous amènerait peut-être plus sur une approche humaniste qui casserait un petit peu le carcan juridique et qui en imposerait un peu au pouvoir politique et législatif et qui donnerait de la voix, je dirais, au plus grand nombre aux citoyens.
C'est toujours dur quand la deuxième question est longue de se rappeler de la première. Mais
pardonnez-moi.
Je crois que je m'en rappelle, c'est bon. Pour la première, donc, je vous dirais que lors pareil, des travaux d'évaluation de la commission Leonetti, on a entendu plusieurs personnes et à chaque fois, on a pris des personnes qui avaient tendance à respecter, pour lesquelles on connaissait leur religion et puis leurs croyances, qui étaient des croyances ancrées en eux. Notamment Robert Banater l'a indiqué qu'il était profondément croyant dans le droit à la vie. Et puis ils ont entendu aussi notamment donc, une personne qui aurait dû être témoin objectivement de ce qu'elle connaissait, c'est le premier président de la Cour de cassation, qui est un des plus hauts magistrats en France, qui est Vincent Lamanda, qui dès le début de son audition, alors qu'il n'était là que pour expliquer la manière dont la Cour de cassation voyait les choses, l'entité elle-même, la Cour de cassation, eh bien, il a dit qu'il viendrait s'expliquer devant la commission, mais qu'il ne parlerait pas au nom de la... au nom de la Cour de cassation, mais au nom de la personne qu'il est, croyant, etc. Donc immédiatement, on savait que le débat était faussé, qu'on avait entendu et qu'on allait entendre des personnes qui faisaient plus entendre leur croyance. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que la croyance était présente plutôt que l'institution en elle-même ou une personne objectivement entendue. Donc je pense que oui, il y a un aspect religieux qui est présent dans le débat relativement à l'euthanasie. Pour la deuxième question que j'ai commencé à oublier, donc, c'était sur, rappelez-moi, les soins palliatifs, alors, il faut bien savoir que la DMD, elle milite en même temps, je dirais, pour les soins palliatifs, puisque nous, les soins palliatifs, au contraire, alors là, plus il y en a, mieux c'est, puisque en plus, le débat sur l'euthanasie oblige, entre guillemets, à une évolution plus croissante des soins palliatifs. On essaie, on ne critique absolument pas les soins palliatifs, puisqu'au contraire, l'idée de la liberté de choix, donc la personne qui veut pouvoir bénéficier jusqu'au dernier souffle de sa vie, de soins, d'aide médicale, au contraire, qu'elle puisse en profiter si c'est son choix. Nous, c'est simplement la question pour les personnes qui veulent s'arrêter avant, parce qu'elles savent que la question est incurable. Là où j'avais dit récemment aux députés de... je ne sais plus quel endroit, ce qui est inquiétant, moi, ce qui me fait peur pour l'histoire des soins palliatifs, c'est qu'on se rend bien compte, dans le rapport notamment, qu'aujourd'hui, donc, il y a très peu de soins palliatifs par rapport... les moyens, disons, les moyens ne sont pas assez... important pour les soins palliatifs, c'est regrettable. Là, j'apprenais encore tout à l'heure, selon Jean-Luc Romero, qu'il semble que les enveloppes qui étaient mises au profit pour les soins palliatifs ces derniers temps ont été notamment captées pour mettre en place les cellules pour la grippe A. Alors, j'ai rien contre la grippe A, mais donc on va faire bénéficier donc, aux problèmes de société actuelle la grippe A, mais les soins palliatifs, on va encore une fois les reléguer en second plan. C'est-à-dire que des directeurs d'établissement ont indiqué récemment qu'ils allaient être obligés de supprimer donc, l'argent qui était prévu pour eux pour les soins palliatifs, ils étaient obligés de le mettre ailleurs. Bon, on se rend compte qu'il y a des choix financiers qui sont sous-jacents, et c'est la seule peur que j'ai. C'est-à-dire que là, la DMD aujourd'hui, au stade où on en est, on se bat pour tout simplement avoir une question de liberté en avant, c'est-à-dire qu'on se bat pour un droit de l'homme essentiel, c'est-à-dire qu'on veut avoir la possibilité de choisir sa fin de vie. Et derrière, il y a un problème financier qui viendra au fur et à mesure des années, puisque les soins palliatifs, on sait que c'est un problème financier. Et on risque peut-être, dans les années à venir, je ne sais pas quand, mais d'avoir une évolution de la loi, mais non plus sur une base de droits de l'homme ou d'autres préoccupations humanitaires, mais tout simplement pour les raisons financières. Et ce sera bien dommage. Mais c'est vrai que peut-être que si on n'arrive pas à assumer les soins palliatifs pendant les années à venir, peut-être que la loi évoluera pour des questions financières. C'est bien dommage, mais bon, ma foi, c'est bien triste. Je ne sais pas si vous avez vu le film à ce sujet, c'est un film, un vieux film avec Charlton Heston, je crois, Soleil vert, quand ils mangent tous ces galettes, là, la société est totalement déshumanisée. Et puis, lorsque les gens veulent mourir, ça y est, pour pas que ça coûte trop cher à la société, on les envoie dans une chambre où on leur montre des images de campagne, de tout ce qu'ils ont pu voir avant. Et puis, on leur permet de mourir en très peu de temps. Et puis, ça montre totalement la déshumanisation de la société. Et puis, l'aspect financier qui est sous-jacent. Enfin, c'est bien dommage d'en arriver là. Hein. Il y a une question devant, ça va vous obliger à marcher, mais j'entends, mais les autres ne vont pas entendre la question.
À propos des soins palliatifs, il me semble avoir lu, je ne sais plus dans quel pays, si c'est en Belgique ou aux Pays-Bas, que les gens étaient admis en soins palliatifs et à un moment, ils faisaient le choix soit de terminer leur vie en soins palliatifs, soit on pouvait leur accorder l'euthanasie.
Je peux pas vous répondre là. Si quelqu'un a la réponse dans la salle, je suis reconnaissant, mais pour ma part, j'ai rien lu sur ce point. Donc c'est possible, tout à fait possible. Ça, je sais pas quel pays pourrait faire ça, mais peut-être plutôt la Belgique, oui. Ça pourrait coller avec la Belgique, mais je peux pas vous répondre.
Ah non, enfin là, il me semble que c'est, enfin je l'ai lu, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, il me semble, sur Internet à propos de.
Aujourd'hui ou hier, j'ai pas lu Internet, j'ai pas regardé. La Belgique. Un point pour la Belgique, un point pour la Suisse, c'est l'Eurovision.
À propos, effectivement, de cette fausse opposition que vous évoquiez entre soins palliatifs et euthanasie, n'est-ce pas ? C'est tout à fait une fausse opposition qui ferait presque souhaiter, d'ailleurs, mais ça ferait un sigle trop long pour la DMD, que soit introduit, si j'ose dire, dans l'explicitation que la DMD milite pour un développement décent des soins palliatifs. Ça mériterait de l'être et ça mettrait un terme à de faux débats que certains intégristes des soins palliatifs et surtout rien au-delà des soins palliatifs oriente parfois dans un sens qui n'est pas conforme à la réalité. Nous sommes pour les soins palliatifs, mais nous savons aussi que ça n'est pas la solution à la totalité des problèmes et qu'il faut laisser cette part de liberté. Alors, pour regarder un peu en dehors de l'Europe, est-ce qu'on n'a pas avec l'État de l'Oregon qui en 97 a adopté une loi favorable au suicide dit médicalement assisté dans les conditions que vous évoquiez, c'est-à-dire les fins de vie douloureuses, maladies incurables, etc., où là on a un recul d'un très grand nombre d'années depuis 1997 et où il s'avère, d'après ce que j'ai pu lire, que notamment les responsables des soins palliatifs qui avaient été farouchement opposés à l'adoption de cette loi dans l'État de l'Oregon, après quelques années de fonctionnement, étaient les premiers à reconnaître qu'aucune des dérives apocalyptiques qu'ils avaient annoncées, redoutées, etc., n'avait été observée, et qu'au contraire, ça apportait effectivement une possibilité de plus à côté des soins palliatifs et non pas à la place des soins palliatifs. Et là-bas, il semblerait aussi dans la même étude que les responsables religieux qui avaient pris position là-bas contre l'adoption de cette loi revenait après expérience, qui prouvait une grande honnêteté d'ailleurs, et constatait que non, ça n'avait pas été tout à fait l'apocalypse qu'ils avaient annoncé. Alors en France, on en parlait un peu en aparté avant, et je pense qu'il y a quand même des espoirs, en deux mots, quand on parle de la position religieuse, parce que je pense à une revue, par exemple, qui s'appelle Golias, G-O-L-I-A-S, qui a pour sous-titre l'empêcheur de croire en rond, et qui a consacré son numéro 126 à un thème central, un dossier très intéressant qui est « Aider à mourir est-il chrétien ?» Point d'interrogation. Et quand on voit ce dossier, il est notamment établi par des personnes qui sont des personnes qui pratiquent le catholicisme romain, qui sont membres de la DMD et qui expliquent très clairement que ces personnes-là ne voient pas de contradiction entre leur foi, leur pratique religieuse et le fait que soit accordée une aide active à mourir, que soit ouverte la possibilité d'euthanasie. Quand on parle peut-être d'une religion ou d'une église, il faut distinguer peut-être l'institution elle-même avec le pouvoir, la hiérarchie, au sommet, jusqu'à Rome, disons, n'est-ce pas, de ce que vivent les gens qui adhèrent à cette religion pour d'autres raisons. Alors c'est peut-être comme le comité de la jupe qui a été créé, n'est-ce pas, après les propos de Mgr 22, n'est-ce pas, qui a dit que, vous êtes au courant, je pense, n'est-ce pas, que quand on se plaignait de la place faible des femmes dans l'Église, qu'il fallait pas, le fait important n'était pas de porter une jupe, c'est ce qu'on avait dans le crâne. Alors le comité de la jupe a été créé. Ce sont des signes que ça bouge, pas dans l'institution, bien sûr, mais au niveau des gens qui adhèrent. Donc je vous avoue que moi, je ne suis pas si pessimiste quant au poids que pèserait la religion. Elle pèse en tant qu'institution, au niveau de ceux qui la pratiquent, peut-être est-il un espoir. Je suis optimiste.
L'important, ce n'est pas la minorité, c'est l'endroit où sont placées les personnes, je dirais, parce qu'on peut être très peu nombreux, mais si on est bien placé, ça suffit. Et puis sur la jupe, c'est vrai que bon, enfin, moi, ça me fait rire, parce que j'ai une consoeur au barreau d'Angers qui s'est fait réprimander par son bâtonnier il y a 3-4 ans parce qu'elle portait des jupes, justement, et que le bâtonnier estimait que c'était trop, pour un avocat, c'était trop. Enfin, le bâtonnier de Nantes n'aurait pas fait ça, par exemple. Enfin bon, c'est différent.
Est-ce que dans les pays où on a autorisé, comme la Hollande ou la Belgique, le nombre de personnes qui se sont donné la mort a augmenté? Est-ce qu'on a fait des statistiques? Est-ce qu'on sait si le nombre s'est transformé après la loi?
Oui, il y a des statistiques qui sont faites. Et c'est ça qui, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de... On n'a pas de concertation par le grand public de toutes ces informations. C'est-à-dire que les travaux qui ont été faits au sein des autres pays, comme en Oregon, par exemple, si on a des exemples comme l'Oregon, on pourrait très bien en France nous donner objectivement le travail qui est fait dans ces pays-là, parce que ce n'est pas des nœuds. Hein. On a tendance, pour ce que j'ai vu, on a tendance à faire passer les Belges pour les histoires belges, enfin... Vraiment, c'était très, très, très moqueur, hein, les débats qui ont pu avoir lieu des fois sur les manières dont les parlementaires ont réalisé leurs débats dans d'autres pays, comme en Belgique, ou pas du tout. Hein, ils ont fait des débats qui sont remplis d'experts, avec des personnes tout à fait compétentes, qui ont justement fait des études sur l'évolution de l'euthanasie et du droit à l'euthanasie. Et en fait, il n'y a pas une augmentation, sauf je crois en Belgique, il y a eu une augmentation, donc c'était de 2006 à 2007, mais il n'y a pas eu d'augmentation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens, comme en Suisse, c'était une des deux associations, c'est Exit qui a fait ça, à partir du moment où les gens savent que leur dossier, entre guillemets, il est accepté, qu'ils pourront, s'ils le souhaitent, avoir une assistance au suicide ou avoir un droit à avoir un médecin le jour où ils en auront besoin, eh bien... Il y a beaucoup de gens qui meurent de mort naturelle, tout simplement parce qu'ils sont rassurés. Ils savent que le jour où ils auront une difficulté dans leur maladie, ils pourront avoir un soutien, comme ils le souhaitent, dans leur vision, ils le souhaitent. Eh bien, ils sont rassurés. On n'a pas du tout une augmentation croissante du chiffre, comme on pourrait nous faire croire en France. Mais le problème, c'est l'information qui nous est donnée, elle est déformée. Donc, à partir du moment où elle est déformée, on ne peut pas évoluer. Et c'est ce qui se passe en France, puisque l'information qui est redistribuée par Jean Leonetti n'est pas du tout un travail objectif qui est fait sur les législations comparées. Et c'est bien dommage.
Oui, je voudrais savoir si juridiquement on se dirige plus vers une dépénalisation de l'euthanasie type les lois Veil sur l'avortement ou sur une modification du code pénal en créant un nouveau fait justificatif d'exception d'euthanasie.
Oui, l'une ou l'autre, oui, c'est vrai. La dépénalisation, donc, ce serait donc faire disparaître le texte incriminateur, d'accord. Donc on aurait vraiment une disposition légale avec l'obligation de créer une loi pour tout simplement dépénaliser l'euthanasie. Tandis que l'autre cas serait un petit peu plus facile, entre guillemets, puisqu'il suffirait de modifier un article de les articles du code pénal en rajoutant une cause d'irresponsabilité pénale qui pourrait être, on a l'état de nécessité, on a la contrainte, on a différents faits exonératoires lorsqu'on commet un crime, qui pourrait être l'euthanasie. Alors, moi je préférerais l'évolution législative avec un article de loi qui dépénalise l'euthanasie. Pourquoi ? Parce que ça évite à un citoyen, comme dans mon dossier Morten Jensen, d'avoir à subir une instruction de 3 ans. Parce que si on a une exception d'euthanasie, entre guillemets, qui va devoir donc juger si oui ou non on était dans le cadre d'une exception d'euthanasie ou pas par rapport au texte du code pénal ? C'est pas le parquet, on ne va pas donner le pouvoir au parquet, donc ça va être vraisemblablement le juge d'instruction. Donc ça veut dire que l'instruction va se dérouler en un an ou deux, si le juge d'instruction existe encore. Et si ce n'est pas le juge d'instruction, de toute façon, il va y avoir cette phase d'enquête, mais avec un renvoi éventuel devant le tribunal ou devant la cour d'assises, avec à son tour, cette fois, au juré et donc, ou au juge qui aura à juger le dossier, de dire si oui ou non il y a exception. Ça veut dire que la personne qui peut, comme dans mon cas, avoir commis une euthanasie qui va vers un acquittement, eh bien, peut ne pas échapper à 3 ou 4 ans de procès et de tout ce qui s'ensuit. Alors qu'au moins une exception légale d'euthanasie, on pourrait avoir, pas une exception légale, mais une disposition immédiate qui prévoit la dépénalisation. Il suffit d'avoir, comme dans les autres pays, soit un comité. En Belgique, c'est un collège donc, de 8 médecins, je crois, avec 4 juristes plus 4 médecins qui sont du corps médical de la maladie de la personne. On pourrait avoir directement un collège avec le bras armé de l'État, le procureur qui soit présent, pour déterminer si on est dans le cadre. Et puis voilà. Donc, on a ce choix. Moi, je dirais que si on tient compte de la vie de la personne, moi, dans mon cas, Morten Jensen, il avait un petit garçon de 3 ou 4 ans, il était tout seul à s'en occuper, il a été obligé de résider en France pendant 2 ans, alors que son travail était au Danemark. Il a eu toute sa vie bouleversée, pendant 3 ans, il a attendu le procès. Je dirais qu'on n'a pas besoin de leur faire subir ça. Il aurait mieux valu, dès le départ, avoir une commission, quelque chose qui permette d'évacuer ce cas-là.
Est-ce que tout à l'heure, vous parliez de la nécessité d'être majeur pour faire cette démarche. Est-ce qu'il y a eu des cas où c'était des enfants ? Et dans ces cas-là, qui intervient ?
Oui. Alors, je ne pensais pas que vous alliez être aussi précise. Obligée à reprendre mes notes. Pour les enfants. Alors. Donc aux Pays-Bas, donc, si le mineur a entre 12 et 16 ans, donc, qu'il est jugé capable d'apprécier convenablement ses intérêts, le médecin ne peut donner suite à sa demande qu'à condition que le ou les titulaires de l'autorité parentale donnent en outre leur accord. Donc il faut que les parents donc, entre 12 et 16 ans donnent leur accord. S'il est âgé de 16 à 18 ans, il faut que les titulaires de l'autorité parentale soient associés à la décision. Donc il y a une omniprésence des parents. Donc le recours à l'euthanasie donc aux Pays-Bas est exclu pour les mineurs de moins de 12 ans. Belgique, je dois l'avoir. Je crois qu'ils sont un peu plus... Il me semble qu'en Belgique, ils sont un tout petit peu plus larges au niveau des âges. Je ne pourrais pas vous le dire maintenant. Oui, non, mais les cas pour les mineurs, en tout cas, sont prévus dans chaque loi. Chaque loi prévoit pour les mineurs. Parce que vous pouvez très bien avoir des mineurs, tout à fait. En plus, c'est vrai que la difficulté d'une maladie, donc pour quelqu'un de jeune, a tendance à le faire mûrir très rapidement. Et vous avez des mineurs qui souffrent dans des conditions terribles aussi. Ça pourrait presque... Ah, ça fait un peu... La cinquième colonne, ça fait un petit peu ce style-là. Ça fait... On a l'impression qu'il y a une émission culturelle qui se termine. Ça. C'est le générique.
Oui, à moi. La proposition de loi, justement, qui va être proposée le 19 novembre, elle va vers quoi ? Vers une dépénalisation ou un fait justificatif ?
C'est la dépénalisation.
Oui, c'est ça.
Je ne l'ai pas vu, mais apparemment, c'est l'esprit, c'est donc la proposition de loi qui est de la DMD. Hein. Ça reprend les mêmes idées. La seule différence, c'est sur le nombre de consultants en médecin. C'est la différence notable. Mais oui, ce serait vers une proposition dépénalisation.
Tout à l'heure, on parlait du rôle de l'Église. Est-ce qu'il est possible de dire quelques mots aussi sur le corps médical et ses positions par rapport à ça? Parce que ce n'est pas triste non plus, je pense.
C'est variable. C'est variable. C'est variable, ça dépend des régions, ça dépend de beaucoup de choses. On a des équipes soignantes actuellement qui sont très réceptives, notamment depuis les affaires récentes, qui appliquent la loi, qui vont même plus loin, je dirais, qui sont vraiment, qui appliquent les directives anticipées, enfin, qui sont d'accord avec l'idée d'arrêt de tout traitement dès que la personne en le demande. Alors qu'on a des cas comme vous avez pu avoir dans le Saumurois avec l'affaire de Pierra, du jeune homme qui était donc en coma depuis plusieurs années. Les parents avaient attendu donc que l'application de la loi Leonetti se fasse. Et puis, ils ont demandé l'arrêt de tout traitement. Et puis, l'équipe soignante, elle a bloqué. Elle a, au contraire, maintenu pendant plusieurs mois, le jeune dans un état où on ne lui supprimait pas en fait les traitements de substances qui le nourrissaient, tout simplement. La sonde gastrique, je crois que c'est ça. Et puis, lorsqu'ils ont accepté, donc, sur avis de plusieurs médecins extérieurs, donc, de retirer la sonde, qui était elle aussi un traitement, eh bien, il a mis 6 jours à mourir, en fait. Donc, on s'est rendu compte, là où il y avait une faille dans la loi Leonetti, c'est que, certes, c'est l'arrêt de tout traitement, on peut le demander, mais on ne meurt pas immédiatement, comme dans un téléfilm où on va s'endormir sur l'oreiller en disant au revoir. Hélas, non, on meurt de faim ou on meurt dans des... Là, il faisait des bonds, il y avait des convulsions, il se levait de son lit, donc et toute la famille, en fait, a subi ça pendant 6 jours. Elle a vu son fils mourir dans des conditions atroces, mais tout ça pour faire appliquer la loi Leonetti. Alors que, justement, c'est là où on se rend compte qu'une aide active à mourir aurait permis d'éviter ça. Moi, j'attends qu'une chose, hein, c'est que cette famille-là ou une famille comme eux saisissent la justice, tout simplement, pour demander une indemnisation du préjudice moral qu'ils ont eu à subir du fait d'avoir vu pendant 6 jours leur fils mourir dans ces conditions-là. Ça, je pense que ça pourrait faire évoluer le débat. Parce que c'est pas normal de faire souffrir les gens à leur tour de cette manière-là.
Et pour ce qui est du corps médical, en plus de la variabilité, disons, des réponses individuelles des médecins à cette situation, on peut peut-être signaler le fait scandaleux qu'avait été, dans la formation des médecins, le manque de formation concernant le traitement de la douleur. Ce pays a été en retard pendant des décennies sur ce plan-là, et les médecins n'étaient pas formés à traiter la douleur. C'était considéré comme tout à fait secondaire, n'est-ce pas? Eh bien, lorsque la loi sera passée, puisque je fais partie des optimistes, je pense que l'une des premières exigences que notre association notamment aura à rappeler, c'est d'agir sur la formation des médecins pour que le respect de la loi Leonetti, pour commencer bien sûr, mais surtout de la loi à venir, soit inculqué, si j'ose dire, très tôt et à plusieurs reprises dans le cursus médical dont pour l'instant la culture effectivement en est assez éloignée, c'est le moins qu'on puisse dire.
Je peux vous donner un chiffre comme ça, histoire de... En Belgique, donc en 2006, vous avez eu 444 euthanasies. En 2002, vous en aviez 249. Non, c'est pas une hécatombe, non, non. Je dois avoir les chiffres des Pays-Bas. Est-ce qu'il y a des juristes dans la salle? Il y en a des étudiants non, en droit? Oui, il y en a. Est-ce que vous savez, à titre indicatif, sur quel fondement on a donc rendu une ordonnance de non-lieu dans l'affaire Imbert?
Je crois que c'était la contrainte.
Oui. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, je pense que c'est une question d'opportunité. C'est vrai que le juge d'instruction, il a utilisé les faits justificatifs à sa disposition. Enfin, la contrainte, elle est applicable dans des cas...
On la voit rarement, la contrainte.
Hein. De cas. on peut en faire ce qu'on veut. Donc.
Là, ils avaient ces contraintes, et puis pour Madame Humbert, l'envahissement des sentiments. C'était à cause de la contrainte intérieure, en fait, l'envahissement des sentiments qu'elle avait fait cet acte, ce qui la rendait pas responsable. Là, le juge d'instruction, il n'a vraiment pas voulu prendre de risque. Hein, ici. On va botter en touche, le débat n'aura pas lieu aujourd'hui devant les juges, on va le mettre de côté. Ça montre justement à quel point, même un magistrat avec une notion telle la contrainte, une notion dont on n'entend jamais parler, hein, parce que n'importe qui pourrait utiliser la contrainte, je veux dire, demain on vole un vélo, j'ai eu quelque chose qui m'a contraint, l'envahissement des sentiments, enfin, il n'y a rien de plus... C'est vraiment une notion qui n'est jamais utilisée, et là on l'a vu dans ce dossier-là, alors que, bon, elle n'avait pas lieu d'être, hein. Et ça a été relevé par tous les professeurs de droit qui sont présentés devant la commission Leonetti. Ils ont bien dit que l'ensemble des jurisprudences qui étaient rendues en la matière d'euthanasie, hein, pour des actes, et c'était n'importe quoi. On avait des différences de fondement. Dans l'affaire de Chanel Tramoy, donc à Bordeaux, on a une personne qui est poursuivie pour empoisonnement et l'autre pour complicité à l'empoisonnement. Donc à partir du moment où celle qui a procédé à l'empoisonnement est acquittée, bah, celle qui est complice ne peut pas être poursuivie puisqu'il n'y a pas d'empoisonnement par définition. Eh bien, vous êtes arrivé à une aberration juridique puisque celle qui était poursuivie pour empoisonnement a été acquittée et celle qui était poursuivie pour complicité à l'empoisonnement, elle a été reconnue coupable. Donc là, même les professeurs de droit qui ont été entendus disaient ce sont des aberrations juridiques. En fait, on construit le droit pour arriver à un message qui est celui de on ne veut pas laisser passer ces actes-là. On construit la notion pour arriver à une fin.
Bon, ben on constate qu'il n'y a plus de questions. Alors, il nous reste à remercier à nouveau chaleureusement Michaël Boulet pour tout ce qu'il nous a apporté ce soir. Et pour donner matière à votre optimisme, vous savez que le 2 novembre prochain est la journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité. Et votre délégation départementale de la Vienne de la DMD, dont Colette Audin ici présente est déléguée, bon, je suis co-déléguée, Armel Massonneau co-déléguée aussi, ont organisé un point presse, on ne dit plus conférence de presse, ça fait trop prétentieux, au Conseil général à 15h le lundi 2 novembre, où nous aurons le plaisir d'avoir auprès de nous, parce qu'il est maintenant vice-président de la DMD, le sénateur Alain Fouché, et auxquels ont été conviés également les nombreux parlementaires de la Vienne, il faut le dire, qui nous ont affirmé leur soutien. J'en rappelle les noms, même s'ils n'étaient pas présents ce soir, ce sont donc Mme Coutel, M. Claes et M. Clément. Voilà, et ce sera donc l'occasion d'exiger très fortement, au nom de la Vienne, puisqu'il y a quand même 86,3% des Français qui sont d'accord avec nous. Il doit y avoir à peu près cette proportion aussi dans la Vienne, vraisemblablement. Ce sera donc l'occasion d'affirmer très fortement que nous sommes heureux de voir déjà le débat s'ouvrir enfin au Parlement, mais que, qui plus est, nous espérons bien que ce débat aboutira dès ce mois de novembre. Comme pour vous rappeliez la loi Veil, on peut rappeler la loi Neuwirth sur la contraception en 1967 aussi. Pour des questions de société aussi graves, les clivages politiques traditionnels méritent d'être dépassés. La loi Veil est passée, la loi Neuwirth est passée parce qu'ils avaient été dépassés, ces clivages. Il faudra qu'il en soit de même pour la loi dont nous a parlé Michaël Boulet, et en particulier le fait qu'elle soit déposée par le groupe socialiste radical et de gauche, nous l'espérons, ne devrait pas empêcher, heureusement le cas d'Alain Fouché est là pour nous le prouver, d'autres parlementaires appartenant à d'autres partis de voter
Martinez,
tout de même.
Notamment. Henriette Martinez.
Henriette Martinez.
Il y en a d'autres. Hein, mais Henriette Martinez, elle fait de lance. Hein.
Voilà. Alors nous espérons que ça se généralisera. En tout cas, merci encore vraiment pour votre contribution. Merci.
Merci à vous.